Chapitre 5. Le défi de la construction de la paix. Cours. Faire la paix par la sécurité collective depuis 1991. Comment assurer la paix entre les nations dans un monde éclaté et marqué par de nouvelles conflictualités? 1. Dans les années 1990, le renouveau du système de sécurité collective. A. Une ONU plus active. La fin de la guerre froide libère l'ONU. Le fonctionnement du Conseil de sécurité n'est plus bloqué par l'opposition des grandes puissances, États-Unis et URSS. Après la chute de l'URSS en 1991, l'usage du droit de veto se raréfie. Le Conseil de sécurité peut davantage avoir recours à des résolutions au titre du chapitre 7 de la Charte, actions en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression, qui fondaient le système de sécurité collective. La guerre du Golfe 1990-1991 manifeste bien cette nouvelle capacité d'action et d'application du droit international. Ainsi, la coalition internationale menée par les États-Unis intervient sous mandat de l'ONU contre l'Irak qui avait envahi le Koweït et à la suite de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. Les opérations de maintien de la paix se multiplient et s'élargissent. Les casques bleus interviennent désormais sur tous les continents, en Afrique, en Asie, par exemple au Timor oriental en 1999, au Moyen-Orient comme en Europe. L'ONU se charge parfois de l'administration provisoire d'États en faillite. Haïti, de 1993 à 1996. Elle s'occupe donc du maintien, mais aussi de la construction de la paix, établissement d'une paix durable, organisation d'élections, rétablissement de la démocratie. B. Limites et échecs du système. Le renouveau de l'ONU dans les années 1990 n'a pas pu empêcher les guerres ni de nouveaux génocides. Au Rwanda, par exemple, la présence des casques bleus n'empêche pas le génocide des Tutsis par le gouvernement Hutu en 1994-1995. Elle ne peut empêcher non plus les guerres en ex-Yougoslavie 1991-1999. Les casques bleus envoyés en Bosnie échouent à protéger les populations civiles bosniaques, notamment lors du massacre de Srebrenica en 1995. L'ONU a recours à des forces armées extérieures. Ces interventions, comme celle de l'OTAN au Kosovo en 1999, révèlent les limites de sa capacité d'action et sa dépendance à l'égard des grandes puissances, seules à même de mobiliser une force armée efficace. Or, ces dernières agissent pour des motifs qui relèvent moins de la sécurité collective que de leur propre intérêt. L'ONU tente d'imposer à partir de 1999 un droit d'ingérence. Ce droit repose sur la notion de sécurité humaine afin de privilégier la sécurité des populations plutôt que celle des territoires. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de 1997 à 2006, défend la notion de responsabilité de protéger au nom des peuples et des droits de l'homme. Si un État n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de sa population, il revient à la communauté internationale de le faire. Mais cette notion se heurte au principe de souveraineté des États inscrit dans la Charte. 2. Vers une nouvelle gouvernance. A. L'ONU face à un monde instable. La paix mondiale est menacée par de nouveaux dangers. Le 11 septembre 2001, les attentats commis aux États-Unis par l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda fait prendre conscience de l'ampleur du risque terroriste. Face à cette menace transnationale, l'ONU manque de moyens d'action. De la même façon, la multiplication des guerres intra-étatiques, comme celle de l'ex-Yougoslavie, 1991-1999, échappe à la logique de l'ONU, fondée sur une conception classique des relations internationales, celle des relations entre États. La paix est aussi mise en péril par la politique interventionniste des États-Unis. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis se lancent dans une guerre qui remet en cause l'idée de sécurité collective. Leur intervention militaire en Irak, 2003, menée sans accord du Conseil de sécurité, et contre l'avis de certains de ses alliés, dont la France, révèle l'impuissance de l'ONU face à l'unilatéralisme américain. Limitée par son mode de fonctionnement même, elle ne peut agir que si l'idée de multilatéralisme est partagée par tous et particulièrement par la première puissance mondiale. B. Réformer l'ONU, une nécessité. L'ONU est la seule organisation internationale universelle. Elle regroupe la quasi-totalité des États du monde, 193 États sur 197, ce qui lui donne une place centrale dans les relations internationales et la capacité à promouvoir un ordre international fondé sur la paix, conformément à sa vocation première. L'ONU dépend cependant de la volonté des États et particulièrement des grandes puissances. Sa capacité d'action est contrainte par l'obligation de respecter la souveraineté des États. Elle reste par ailleurs toujours dépendante de l'accord des membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine, leur droit de veto pouvant bloquer toute initiative d'envergure. La réforme du système onusien paraît donc indispensable. Elle n'a pas pu aboutir à ce jour, car le fait que l'ONU devienne une organisation supranationale suppose un abandon de souveraineté des États. Certains pensent aussi qu'il faudrait élargir le Conseil de sécurité à de nouveaux États, comme l'Inde. Dans les deux cas, cela nécessiterait que les membres du Conseil de sécurité renoncent à une partie de leur puissance pour une authentique gouvernance mondiale.